retrouve Elisabeth Noir et son invité.
Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est le président du Congrès, Roch Wamitan. Bonjour.
Bonjour, Elisabeth.
Merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité immédiate, c'est, ou prochaine en tout cas, c'est le renouvellement du bureau et du président du Congrès. C'est à la fin du mois, le 30 août exactement. Vous présidez le Congrès depuis 2019 maintenant. Rapidement, quel bilan vous faites de cette année? Beaucoup de textes, beaucoup de débats au sein de l'hémicycle du boulevard Vauban?
Oui, tout à fait. Un mois après ma réélection, donc en fin juillet de l'année dernière, donc nous sommes rentrés en confinement, hein, puisque nous avons été impactés par la crise sanitaire, le Covid-19. Et l'objectif que je me suis donné avec le bureau du Congrès était de faire fonctionner ce Congrès quand même pour la fabrique des lois, puisque c'est notre travail, hein, au niveau du Congrès, de fabriquer des lois, lois du pays, délibérations, etc., de ne pas stopper le processus de fabrication des lois. Et nous avons quand même réussi à maintenir à minima ce travail important du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons pu aussi voter le budget avec un peu de retard, bien sûr, le budget 2022. Et faire fonctionner, de tenir à ce que le Congrès fonctionne et que nous les objectifs que je me suis donné, notamment sur la mobilité, le programme de mobilité, c'est-à-dire que nous tournons à l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie, la Grande Terre, les îles, etc., pour faire connaître qu'est-ce que c'est le Congrès à côté du gouvernement, des collectivités, de l'État, etc., parce que le Congrès, en fait, suite à une enquête que nous avons effectuée, finalement, elle n'est pas très connue de la population calédonienne. Voilà. L'Assemblée territoriale était bien connue. Bon, après le Congrès, et comme le gouvernement a été mis en place il y a plus de 20 ans de ça, en fait, le gouvernement a pris évidemment la place, puisque c'était plus l'institution qui intéressait plus les Calédoniens que le Congrès, qui était peut-être un peu plus haut par rapport aux préoccupations des Calédoniens.
Et alors, ces réunions, ça intéressait les gens, ils connaissent mieux le Congrès maintenant,
pas tout à fait la dizaine, mais nous avons approché la dizaine de rencontres, hein, essentiellement dans les communes ou dans les conseils coutumiers. À la fin des réunions qui durent à peu près 2-3 heures, en fait, ça a été le grand étonnement en général, hein, des personnes qui nous recevaient, étonnées que le Congrès fasse autant de travail, voilà, parce que les élus travaillent quand même, mine de rien, malgré les critiques des uns et des autres, mais les élus travaillent, et sont payés pour ça d'ailleurs, pour voter des lois et des budgets, etc. J'étais vraiment moi-même satisfait de toutes ces rencontres à l'intérieur de la Grande Terre, des communes de la Grande Terre et des îles.
Alors, vous aurez l'occasion, je crois, de dresser un peu le bilan de cette année avant le renouvellement de votre mandat. Ça a été aussi une année un peu agitée en interne, avec beaucoup de recompositions à l'intérieur des groupes, avec l'émergence de nouveaux groupes, avec l'éveil océanien qui quitte le groupe UCF-LNKS, avec les loyalistes qui se réorganisent entre eux. C'est compliqué à gérer pour un président du Congrès
Non, pas plus que ça, parce qu'en fait, on est habitué. Hein. L'institution, en fait, est habituée à ces recompositions, ces moments de va-et-vient d'un groupe à l'autre, de reconstitution, de clôture des groupes, de naissance de nouveaux groupes. À partir du moment où il n'y a pas de majorité, depuis l'époque de Jacques Lafleur, quoi, on va dire. Donc, ce sont des majorités de circonstances ou des majorités d'idées qui se sont constituées pour voter les textes. Depuis l'an dernier, c'est un petit peu différent puisque ce sont les indépendantistes, hein, donc avec les pays océaniens qui sont majoritaires au Congrès. Donc, on peut pas dire que c'est difficile de gérer tout ça. Non, nous sommes habitués à gérer ce genre de problèmes. Le quelques problèmes qu'on a gérés, c'est plutôt quand les élus bougent d'un groupe à l'autre, c'est leur place dans l'hémicycle.
C'est
leur place dans l'hémicycle.
Pour faire les étiquettes.
Voilà, c'est plutôt ça. Mais ce qui est important, j'ai toujours veillé à ce que chaque élu puisse exercer son rôle dans un groupe ou dans un ou individuellement, puisqu'il y a des élus qui siègent hors groupe. Et je pense que c'est important dans la démocratie dans laquelle cette démocratie parlementaire que nous vivons, que chaque élu, eh bien, il ait tous les moyens pour pouvoir fonctionner et pour exercer son rôle d'élu pour lequel il a été élu par la population.
Alors vous aviez été président du Congrès par le passé. Là, vous avez été réélu vous êtes président depuis 2019. Vous avez été réélu il y a un an avec les voix de l'Éveil océanien. L'Éveil océanien qui avait dit pendant un moment qu'il ferait l'équilibre entre le gouvernement et le Congrès. Et puis, finalement, ils ont voté pour vous également l'an dernier, malgré une majorité indépendantiste aussi au sein du gouvernement. Ça se présente comment cette année? Ils vous soutiennent toujours? Vous êtes assuré de garder votre fauteuil?
Oh ben écoutez, vous savez, chaque élection pour le renouvellement du Congrès depuis déjà plusieurs années garde sa part de mystère, hein, vous savez, et donc de suspense. Voilà. Donc on est dans le suspense pour le moment, puisque les uns et les autres discutent. Voilà. J'ai été élu du Congrès comme président du Congrès donc depuis 2019 grâce aux voix d'Éveil océanien. Cette année, au moment où je vous parle, donc les discussions, donc ont commencé, bien sûr. Voilà, parce que nous discutons programme. Hein, c'est pas à la tête des gens, mais c'est plus sur les programmes que les uns et les autres défendent pour pouvoir désigner les représentants donc à la présidence, mais aussi au niveau des présidences des commissions, parce que c'est important aussi les présidences des commissions. Voilà. Et puis le bureau du Congrès. Donc pour le moment, voilà. Les discussions sont ouvertes.
Parce qu'il y a un an, l'Éveil océanien avait dit que s'il y avait un candidat unique des loyalistes, ils porteraient leur voix sur lui pour justement maintenir un équilibre dans les institutions. À votre connaissance, c'est le cas encore cette année? S'il y a face à vous un candidat unique des loyalistes, l'Éveil océanien pourrait le soutenir plutôt que vous soutenir vous? Ou c'est hors de question?
Non, pour le moment, je ne sais pas. C'est comme j'ai dit, tout ça, ça garde une part de mystère. Hein. Voilà, donc. Là, nous sommes à donc 3 semaines hein, de l'élection, puisque l'élection va se passer. C'est pas l'élection seulement du Congrès, hein, du président du Congrès. C'est le renouvellement de toutes les instances du Congrès, que ce soit le président, les vice-présidents, la commission permanente, les présidents des commissions, la composition même des commissions, des commissions, la représentation, les représentations extérieures, etc. Donc ça fait quand même. C'est pour ça que ça nous occupe toute la journée. Ce qui est pénible, c'est chaque année qu'il faut faire ça. Et puis ça coûte cher quand même au Congrès. Ça coûte cher la part de dans le fonctionnement du Congrès. Il faut voter dans le budget du Congrès. Elle est importante quand même.
Alors certains veulent qu'on fasse ça une fois par mandature. Vous seriez d'accord, vous, pour que le président soit élu pour l'ensemble de la mandature sans que ça soit mis en cause?
En tout cas, oui, mon groupe est d'accord. Mais je pense que c'est quasiment l'ensemble des groupes politiques au Congrès. Donc, l'ont exprimé devant la CEI, c'est-à-dire la commission d'experts internationaux que j'ai mis en place au niveau du Congrès pour étudier le fonctionnement, l'organisation, les fonctionnements actuels et pour jeter le Congrès dans les 15-20 ans à venir. Et l'ensemble des groupes, en fait, ont manifesté ce désir, on va dire, ce projet que d'essayer de revoir, en fait, ce principe du renouvellement chaque année, de façon à ce que quand les personnes sont élues en début de mandat, mais ils ont quand même une visibilité. Bon, est-ce que il faut le faire sur 5 ans? Est-ce qu'il faut le faire sur deux ans et demi? Donc tout ça, ça va être discuté au sein de cette commission, puisque il y aura les représentants de cette commission. La composition de cette commission d'experts, d'experts internationaux, les personnes vont venir peut-être au mois d'août ou au mois novembre. Ils viendront au mois de novembre pour présenter leur rapport d'étape. Et dans ce rapport d'étape, il y a cette question, effectivement, du renouvellement de la présidence chaque année.
En attendant, vous êtes candidat à au renouvellement de votre mandat. Vous souhaiteriez continuer, vous?
Moi je souhaite continuer, bien sûr, puisque c'est dans la dans les objectifs que nous sommes donnés depuis 2019. Mais mon groupe va se réunir lundi prochain pour en discuter. Voilà.
Alors vous êtes président du Congrès, mais vous êtes aussi signataire historique, comme on dit, de l'accord de Nouméa. C'est aussi ce qui fait l'actualité calédonienne ces derniers jours. Qu'est-ce que vous pensez de l'annonce par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, d'un comité signataire à Paris en septembre? Vous êtes pour, vous êtes contre?
Ben moi, en tout cas, en tant que signataire, j'ai jamais été informé comme ça se passe depuis 30 ans. Que l'État, que le gouvernement français invite ou organise ce comité des signataires en septembre.
Vous l'avez appris par communiqué comme
tellement
par tweet.
Oui, exactement. Donc c'est peut-être ce gouvernement qui fonctionne comme ça. Enfin, nous on n'est pas habitué à fonctionner par tweet parce que quand le gouvernement, puisque c'est prévu dans l'accord de Nouméa, les comités de signataires et pendant la période 88-98, c'était le comité de suivi, voilà. Eh bien, il y a d'abord une première approche du gouvernement, du ministre concerné, voilà, comme généralement le ministre de l'Outre-mer ou le premier ministre. Donc, une approche, et donc, il auditionne les uns les autres pour savoir si, qu'est-ce qu'il pense d'un comité de signataires dans les semaines qui viennent. Ensuite, lorsqu'il trouve un accord, donc, il nous invite officiellement par lettre, voilà, pour nous dire que, voilà, dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 1 mois et demi, aura lieu à Paris ou à Nouméa le prochain comité de signataires. Or là, peut-être de façon nouvelle, cette nouvelle génération d'élus, voilà, en France, au gouvernement français, on a été étonnés et ça nous a quelque part choqués, parce qu'on a considéré, en tout cas je considère que prévenir des élus calédoniens et la population calédonienne en général, c'est leur manque de respect. Prévenant leur informant par tweet. Voilà.
Au-delà de la forme, sur le fond, est-ce que ça vous paraît intéressant de réunir un comité des signataires aujourd'hui ou dans les mois qui viennent?
Ben, nous, ce que nous avons demandé, le comité des signataires viendrait après, parce que le comité des signataires, le prochain comité des signataires ou la prochaine réunion, sous ce format-là ou sous un autre format, respecte le point 5 de l'accord de Nouméa. C'est-à-dire, c'est à la fin du processus, quoi. Donc, à la fin du processus, une fois que le troisième nom, donc, on l'emporte, les partenaires politiques se réunissent pour examiner la situation ainsi créée. Donc, voilà, c'est les partenaires politiques, c'est pas dit expressément que c'est un comité signataire, mais on suppose que ça peut être le comité signataire. Donc là, par tweet, nous avons appris que, finalement, la décision du gouvernement, c'était un comité signataire. Mais ça ne rentre pas dans les positionnements, dans les postures que nous avons arrêtées, nous, au niveau du FLNKS, puisque nous avons souhaité, avant le comité de signataire, qu'il y ait une discussion en bilatéral, voilà, avec l'État, parce que pour nous avons considéré que c'était important, de procéder comme en 1988, comme en 1998, de le procéder là pour la troisième grande rencontre qui va définir les contours d'un futur statut pour la Nouvelle-Calédonie et de l'avenir de la population calédonienne. Nous avons pensé que il était important de procéder comme nous avons procédé en 88, en 98, et nous devons procéder de cette manière-là. Parce que tout simplement, pourquoi? Tout simplement parce que nous considérons comme le peuple originel de la Nouvelle-Calédonie, voilà, et c'est un peuple qui est là depuis 3000 ans, et donc nous considérons que nous sommes dans une parenthèse, voilà, depuis 1853, et qu'à un moment donné, il faut fermer cette parenthèse pour retrouver cette liberté que nous avions avant, voilà.
Bon, depuis il y a les populations intéressées, il y a le corps électoral spécial appelé à se prononcer.
Non, ça c'est une chose. Vous ne pouvez pas effacer la souveraineté du peuple kanak sur cette terre, voilà. Une souveraineté culturelle, une souveraineté mythologique, une souveraineté rituelle, culturelle, sacrée, du lien profondément sacré, par exemple. De ce peuple kanak à sa terre originelle. Donc, je pense que c'était important que nous puissions discuter avec, entre guillemets, notre colonisateur.
Mais pour revenir,
on ne peut pas faire autrement.
Mais donc, les bilatérales.
Et là, je pense que l'État nous a entendus finalement, puisque dans les discussions que nous avons avec eux, avec les plus hauts responsables de l'État, ils nous parlent de la possibilité d'une discussion bilatérale ici et ensuite à Paris, avant un éventuel comité de signataires. Vous voyez, voilà.
Et des bilatérales, les ce qu'on appelle aujourd'hui les loyalistes, en tout cas les représentants des partisans du maintien d'accueil dans la France, pourraient aussi avoir des bilatérales avec l'État, ça vous dérange pas?
Mais ils font que ça depuis. Mais non, mais ils font que ça depuis. Ils ont même plus en bilatéral, ils sont ensemble. Ben oui. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble depuis, la preuve c'est quoi? La preuve c'est que, la présidente Bacchès a été nommée comme ministre de la citoyenneté. Donc ils sont ensemble. Et c'est plus une question de bilatéral. Alors, c'est pour ça que nous disons, mais eux, ils sont plus en bilatéral puisqu'ils sont ensemble. Voilà. Mais nous avons cette particularité-là, que nous devons discuter avec celui qui nous a colonisés. Et celui qui est là encore présent sur dans notre pays. Voyez? Donc, c'est pas pour dire qu'on rejette les autres. C'est pour dire que le peuple kanak est toujours là. Et que, il faut l'entendre. Il faut l'écouter, écouter ce qu'il pense, ce qu'il dit, de sa culture, de son identité, de sa liberté, pouvoir avancer.
Les bilatérales, c'est avec le FLNKS, c'est pas avec le peuple kanak.
C'est le peuple kanak. C'est le peuple. Pour le moment, c'est vrai que c'est le FLNKS qui s'est toujours considéré comme le porteur de la revendication kanak.
C'est vrai encore, mais c'est contesté aujourd'hui.
Ça peut être contesté, bien sûr. On n'a pas de problème avec ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut l'élargir. Voilà. Donc, le FLNK s'est élargi. Voilà, par rapport à ce que vous dites, Elisabeth. Le FLNK s'est élargi puisque, donc, il intègre les autres partis, indépendantistes qui représentent aussi une partie des Kanaks. Voilà. Donc, c'est important que, l'ensemble du peuple kanak soit représenté pour pouvoir discuter avec le gouvernement français.
Alors vous nous disiez que vous aviez été entendu qu'il y aurait sans doute des discussions en bilatéral ici en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire vous en avez parlé avec qui?
Jean-François
Carenco avec Gérald Darmanin.
Comme la plupart de mes des signataires de notre côté, des signataires du côté non indépendantiste. Évidemment, nous avons été approchés tout récemment. Voilà. J'ai dit tout récemment, pourquoi?
C'est parce que ça n'a pas été rendu public officiellement encore.
Ça n'a pas été rendu public.
Si vous le faites là.
C'est plus public maintenant parce que tout le monde sait.
Voilà.
Donc, oui. Donc, en fait, les discussions qu'on a, quand ils reprennent contact avec nous par rapport à ce que nous avons décidé aussi. C'est-à-dire que pas de discussion avec l'État tant que les nouvelles équipes sont en place. Les présidentielles sont passées. Nous avons de nouveau Monsieur Macron, ok. Les législatives sont passées. Nous avons les personnes avec qui nous devons discuter. L'Assemblée nationale, le Sénat, ok, ça va bouger. De nouveaux députés. Non, il y a un nouveau député. Voilà. Donc, les équipes. Nous avons une ministre, comme une secrétaire d'État. Donc, voilà, tous ces gens-là, c'est l'État. Voilà, pour nous. Donc, il va falloir discuter avec eux. Voilà. Et là, ils commencent à reprendre le contact, mais ce sont des contacts. Bon, mais comme ils font d'habitude, ils prennent les contacts directement avec les responsables d'abord, et puis ensuite, nous entre nous, on discute, on échange là-dessus. Et voilà, en gros, ce qu'ils nous disent, quoi. Ils sont à peu près, je suis prudent en disant ça, mais ils sont quand même. Arriver à un moment où ils se disent effectivement il faut quand même donner satisfaction au FLNKS, aux indépendantistes, aux progressistes, etc. pour que dans une première phase il y ait une discussion en bilatéral. Je pense que ils vont peut-être envoyer quelqu'un dans les prochaines semaines.
Quelqu'un qui pourrait être. C'est pas encore fixé.
C'est pas encore décidé. Moi c'est que je fais part à la population, c'est que les choses commencent à s'engranger, à s'enclencher, voilà la mécanique commence à s'engager, mais ça suppose que les partis politiques ici donc s'organisent aussi. Nous nous sommes organisés au niveau du FLNKS et nous avons notre calendrier, donc le calendrier, donc il y aura des comités directeurs, etc., des différents partis politiques indépendantistes, et nous avons un grand congrès qui est prévu normalement le 17 septembre, et c'est le 17 septembre donc que va se décider le FLNKS pour y aller à la discussion ou non.
Mais les bilatérales, ou la personnalité qui vient de Paris pour parler avec vous ici, viendra avant le 17 septembre ou vous ne voulez pas les voir avant d'avoir réuni le congrès du FLNKS?
Je pense que là ils commencent les approches. donc avec les responsables. Donc c'est à nous de voir maintenant en interne. Donc moi je suis de l'Union calédonienne, donc c'est l'UC, le bureau politique du FNKS, de voir donc comment que tout ça doit s'agencer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Le mois d'août, maintenant, bon, plus personne ne travaille en France. Évidemment, ils ont tous...
Ils ont tous chaud.
Donc, il y aura la rentrée, comme on dit. Il y aura la rentrée de septembre. Et ça tombe pile poil, notre congrès, puisque c'est à la rentrée, comme on dit, en France, quoi. Voilà, c'est à la rentrée, donc ça va être en septembre. Et puis après, en septembre, on verra plus clair.
Dans la nouvelle organisation, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, en charge également des Outre-mer, et Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer. Ça vous convient comme interlocuteur? Vous le connaissez, Jean-François Carenco?
Jean-François Carenco, je le connais très bien, puisque j'ai travaillé un an avec lui, quand j'étais encore dans l'administration, avant d'être élu en 1989, donc pendant l'administration directe. Donc j'ai travaillé avec lui, j'étais son chargé, un de ses chargés de mission, pour le développement économique, parce que lui était secrétaire général chargé du développement économique avec monsieur Jean-François Denis. Donc évidemment je le connais très bien, c'est un bourreau de travail, il connaît très bien ses dossiers, c'est quelqu'un qui ne dort pratiquement pas, il dort 3-4 heures par nuit et il fait que travailler. Donc c'est quelqu'un, si on arrive à matcher avec lui, je pense qu'on peut aller très loin, mais s'il est contre nous, on aura un peu de mal.
Et pour l'instant, d'après...
Il risque d'être un adversaire coriace, oui.
D'après les premiers contacts que vous avez eus avec lui, il est plutôt contre vous ou il est plutôt avec vous?
Moi, d'abord, le premier contact, c'est de dire, alors Jean-François, comment vas-tu? Ça fait un moment que je t'ai pas vu. Bon, je m'excuse, je t'ai pas félicité, mais alors, qu'est-ce que tu veux? Voilà, c'est normal, puisque ça faisait un moment que je ne l'ai pas revu. Quand nous allions à Paris depuis toutes ces années, j'avais plusieurs fois l'occasion de le voir, donc on allait discuter, voilà. Dernièrement, la dernière fois que je l'ai vu, ça remonte quand même à quelques années, c'est quand il était premier préfet de France, il était le préfet de l'Île-de-France. Donc, on avait été le voir, il nous avait accueillis dans sa préfecture là-bas. Mais il suivait la Calédonie comme la plupart des hauts commissaires hein, qui sont passés par là, ou bien des personnes du Conseil d'État, etc., qui sont été intéressés par ce qui se passe à la Nouvelle-Calédonie, qui voulaient apporter leur pierre aussi. Voilà. En France, ils les appellent un peu avec humour les calédologues.
Les calédologues, oui, on a vu que le néologisme avait été créé. Donc, discussion bilatérale semble-t-il possible ici en Nouvelle-Calédonie? Et ensuite, en fonction, on verra le calendrier, un comité décidataire qui sera le dernier, qui sera destiné à clore le processus de l'accord de Nouméa. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, en fonction du poids 5 de l'accord de Nouméa, se réunir pour examiner la situation ainsi créée.
En tout cas, moi, j'ai fait savoir que c'était pas pour clore l'accord, puisqu'on ne peut pas clore l'accord comme ça, hein. Puisqu'on sera dans un vide juridique sidéral. Donc, ça n'existait pas dans le système, juridique français. Donc c'est plus pour fixer, pour moi, hein, c'est, moi je l'ai dit comme ça, hein, c'est plus pour fixer le calendrier, les modalités, le contenu des discussions, qui à mon avis devrait dépasser le cadre du calendrier qui a été fixé à l'année dernière.
Le référendum de projet en juin 2023, ça vous paraît trop tôt?
Là, c'est le moment de vraiment discuter sérieusement. Et comment discuter sérieusement, c'est d'aller jusque dans les détails, mettre tout sur la table, voilà, désosser complètement tous les mécanismes, et puis aller au fond des choses, au fond des problèmes, jusqu'à aller dans les concepts de colonisation, de décolonisation, de d'émancipation et tout ça, parce qu'on n'arrête pas de se battre sur ces concepts-là. Alors discutons, mettons autour de la table pour donner un sens commun et partagé donc à tous ces concepts qui pour le moment nous divisent. Et puis sur les populations aussi, sur le peuplement de la population, sur la souveraineté kanak, sur sa terre, voilà, sur sa culture, sur son identité, voilà, aller au fond des choses, voyez, parce qu'il n'y a pas des moments où la souveraineté kanak serait reconnue par les autres. Eh bien, les kanaks à ce moment-là pourraient accueillir les autres populations installées ici chez nous en Nouvelle-Calédonie. Vous voyez, c'est ce qu'on fait.
Une souveraineté plus culturelle que politique.
Culturel, mais c'est, voilà, au fond des choses de la culture, hein, c'est-à-dire comment le peuple kanak est un peuple comment qui vit avec ses mythes, avec ses rites, avec sa sacralité, avec vous voyez, c'est tout ça. Donc on n'a jamais discuté jusqu'à ce niveau-là. Je pense qu'il est important d'aller jusqu'à ce niveau-là pour qu'on puisse se comprendre. Parce que vous savez, quand je vois tout ce qui se passe là, ici, chez nous, en Nouvelle-Calédonie, mais on se comprend pas, hein. Même avant, ça fait 169 ans que la France est ici, il n'a jamais compris exactement qui était le Kanak. Donc, malgré les ethnologues et tout ça qui sont passés ici, les anthropologues, ils ont pas compris grand chose. Donc, est-ce que, alors, à un moment où on va discuter d'un statut qui va nous engager, qui va engager tous ces milliers de jeunes, voilà, vers un avenir qu'on espère, comment dire, radieux pour l'ensemble de la population calédonienne, il est temps quand même d'aller au fond des choses, parce qu'on n'a pas été jusqu'au fond des choses.
Voilà. Mais ça amène la Calédonie dans un statut, et là vous n'en serez pas d'accord, mais c'est le point où on en est aujourd'hui, qui maintienne la Calédonie dans la France. Quelles que soient les réflexions que vous voulez avoir sur la souveraineté, l'histoire, le sacré, le fait que la Calédonie reste dans la France, ça a été validé par trois fois par un référendum. Vous êtes d'accord sur ce point ou non?
Ah mais non, nous ne pouvons pas être d'accord là-dessus. Donc c'est voilà.
Je m'en doutais.
Mais on ne peut pas être d'accord avec ça.
Alors le troisième référendum. Voilà, vous contestez le troisième.
Vous voyez, notre position c'est quoi? Nous, notre position c'est on est d'accord sur le premier référendum, pas de problème. Sur le deuxième référendum. Mais pas sur le troisième référendum. Non, pour nous, c'est incomplet, on n'a pas été jusqu'au bout. Mais après, une fois qu'on l'a dit, les autres disent, ah, mais non, bah, trois fois, c'est non, reste éternellement, indéfiniment dans la France. Pour nous, on a dit non. Puisque pour nous, c'est une parenthèse, c'est tout. Comme le jeune député, là, il a dit, comment, le Gaïc, là. Comment le jeune député de 21 ans, quand on lui a posé la question de l'indépendance, et il a dit, alors le journaliste lui pose la question, vous voulez que, comment, ou alors vous quittez vous quittez la France, quoi. Il a dit non, je veux que la France quitte mon pays.
C'est la Polynésie, là, on parle de la Nouvelle-Calédonie.
Mais j'ai dit, non, c'est un peu pareil, on est un peu dans ce sens-là aussi.
Oui. Vous voulez pas le troisième vous contestez toujours le troisième référendum?
Oui, alors nous avons contesté le référendum, donc le dossier juridique est au niveau de la Cour internationale de justice de La Haye. Donc nous avons mobilisé toute une équipe d'avocats à Paris et auprès des Nations Unies. Voilà, ils ont déjà formulé la question, parce que c'est une question. On pose une question, et puis ensuite, ce qui est demandé à la Cour internationale de justice, est-ce que, votre avis sur cette question qu'on vous pose? Et la question qu'on vous pose est relative au référendum du 12 décembre. Est-ce que le référendum du 12 décembre respecte les dispositions, relatives au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à être maîtres de leur destin. Voilà. Donc à partir du moment où ça pose cette question-là qui relève des Nations Unies, la Cour internationale de justice, avant d'examiner donc la question, demande l'avis des Nations Unies. Donc là nous sommes au stade où c'est rendu presque aux États-Unis, au Comité des 24. Le Comité des 24 va s'en saisir. Ensuite, ce sera l'Assemblée générale qui va se saisir de cette proposition d'avis et ensuite transmettra son avis, l'avis donc de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est quand même excusez du peu, hein, voilà. Et ensuite, le dossier donc rentrera donc dans la mécanique d'examen de la Cour internationale de justice et la Cour internationale de justice va ensuite juger pour savoir quel sera l'avis de cette Cour sur cette question.
Le Conseil d'État a déjà rejeté les recours qui avaient été faits, en tout cas sur le troisième référendum.
Oui, mais on s'en fout.
Du Conseil d'État.
Donc, c'est franco-français. Ce qui est important pour nous, c'est de nous adresser à la Cour internationale de justice.
Combien de temps ça va prendre tout ça?
Ça, c'est avant le début des négociations. Je pense que la Cour internationale de justice va se prononcer et nous mettons tout en œuvre pour que la Cour internationale de justice de La Haye nous donne raison.
Et si elle vous donne tort, si elle dit que oui, le référendum du 12 décembre, il est valide, il est incontestable.
Mais nous allons poursuivre notre droit à l'autodétermination. Le droit à l'autodétermination du peuple kanak ne sera pas aboli pour autant.
Tout le monde dit que quel que soit le statut, de toute façon, il y a toujours le droit à l'autodétermination, effectivement, continue d'exister, continue de... Entre les deux, on ne peut pas s'arrêter. Il faut bien construire un statut pour la Calédonie.
Mais il faut bien qu'il y ait un statut pour la Calédonie. Mais évidemment qu'il faut bien un statut pour la Calédonie. Donc la Calédonie est divisée en deux blocs, voilà, on va dire. C'est pour ça qu'il n'a pas de sens le résultat du troisième référendum. Donc ça veut dire s'il fallait juger sur quelque chose de représentatif, ce serait sur le deuxième référendum. Donc mais en gros, on va dire qu'en gros c'est deux blocs. Alors entre les Kanaks qui revendiquent la liberté pour leur pays, la souveraineté pour leur pays, et les autres qui souhaitent rester dans la France. Donc il faut trouver ensuite le juste milieu pour pouvoir trouver quelque chose qui convient aux deux parties. Nous allons venir à la discussion pour discuter de quoi finalement. En gros, je l'ai dit comme ça, mais je pense que les responsables du FNKS l'ont dit déjà. C'est pour discuter du transfert, entre autres, c'est le transfert des compétences régaliennes. Pour préparer déjà le pays dans les années qui viennent. Enfin, nous, on avait parlé de 2025, mais c'est un objectif. Mais bon, après, c'est la discussion,
poser à la table. Oui. On sort carrément de l'accord de Nouméa, là, dans ce cas-là.
Mais après, c'est parce que l'accord de Nouméa, il est en train de se terminer. Voilà, donc il faut bien se projeter. Oui, il faut bien se projeter. L'accord de Nouméa, c'est terminé, mais il faut appliquer l'accord de Nouméa jusqu'au bout. Et dans ses écrits, moi je suis quand même un des gardiens quand même de l'accord de Nouméa.
C'est bien pour ça que je vous pose toutes ces questions.
Alors il y en a qui veulent m'effacer ou jeter ou même me tuer.
C'est notre question de ça.
Moi je suis le gardien je garderai ça jusqu'au moment où les choses vont évoluer.
On a quand même entendu l'animateur du bureau politique aujourd'hui, Alozio Sacco, président du RDO, dire comité des signataires, il n'a plus aucune légitimité. Ça vous vise, vous, qui êtes l'un des signataires historiques?
Je pense qu'il évoquait le comité des signataires proposé là, un peu à la va-vite et puis par tweet là. Voilà, sans consulter personne, mais là ils sont en train de consulter les gens là. Donc ils nous consultent, donc après c'est un appel quoi. C'est normal qu'on lance des appels pour pouvoir. C'est un appel à la discussion. C'est comme ici. À chaque fois, quand il y a des blocages, on peut pas rester bloqué. C'est quasiment impossible de rester bloqué sur des positions des uns et des autres. Donc chacun fait un pas vers l'autre pour pouvoir discuter. Ensuite, on dit mais on discute de quoi? Voilà, puis après on avance comme ça. Voilà. Mais toujours lancer ou stigmatiser les uns et les autres des paroles en l'air qui font mal aux uns et aux autres, c'est pas terrible quoi.
Mais l'objectif c'est de trouver un nouvel accord, une nouvelle solution consensuelle qui satisfasse les deux blocs.
Il faut avancer là-dessus, il y a des revendications fondamentales qui sont là.
De part et d'autre.
De part et d'autre, voilà. Nous, notre revendication, c'est d'arriver à discuter comment on fait dans les années qui viennent. Donc, il faut tirer sur les années qui viennent, voir à peu près où on met le curseur. Donc, le transfert progressif des compétences régaliennes. Voilà.
Et les autres, c'est comment on installe durablement la Calédonie dans la France.
Voilà.
Et comment on ouvre le corps électoral.
Voilà.
Ça, c'est pas évident pour l'instant de voir où on met le curseur.
Mais c'est comme ça qu'on, de toute façon, comme il y a deux blocs ici. Il y a deux blocs ici, mais les deux blocs s'affirment. Donc, on s'affirme et puis ensuite on met, tout ça sur la table. La seule question qui se pose à nous, c'est qui mène la discussion, parce que ça nous embête en fait le fait que maintenant l'État et les non-indépendantistes, ils sont ensemble. Donc est-ce que l'État, menant les discussions, ne serait pas juge et partie?
Donc voilà, ça veut dire que vous ne souhaitez pas que Sylvia Baquet soit autour de la table des discussions?
Elle a dit qu'elle sera
pour représenter les partenaires calédoniens.
Mais non, mais Baquet, c'est un pion là-dedans. Là. C'est pas elle que moi, ça m'intéresse pas. Moi, c'est l'État qui m'intéresse. Vous voyez, parce que moi, c'est mon colonisateur, c'est l'État, c'est pas Baquet. Voilà. Donc, la question fondamentale qu'on se pose là, au niveau de la méthode, c'est quoi? C'est de dire, mais finalement, qui va mener ces discussions-là? Qui va présider? Parce que l'État, du coup, elle est jugée partie. Il est jugé parti, là.
Mais nous,
on se pose la question là où on est actuellement.
Ouais. Voilà. Et autrement, qui autour de la table également pour, alors, est-ce que ce sont les signataires historiques qui, 20 ans après, doivent peut-être sortir, comme vous le disiez, hein, vous êtes garant, aller jusqu'au bout? Ou est-ce qu'au contraire, c'est les nouvelles générations, les nouveaux groupes politiques, les responsables des institutions? Vous voyez qui autour de la table des discussions? Une fois qu'on aura réussi à...
Je vois les personnes qui seront désignées par les partis politiques. Puisque c'est les partis politiques qui représentent la population. Les partis politiques qui sont représentés au Congrès. Peut-être les autres partis politiques, je sais pas. Mais comment, ça fonctionne comme ça, la démocratie. Donc, ce sont les partis politiques. Moi, je fais partie de l'Union calédonienne et du FLNKS. Donc, si, demain, l'Union calédonienne me dit, bon, mais toi, t'étais notre signataire, tu te mets sur le côté, et puis c'est quelqu'un un peu plus jeune qui va prendre ta place, ben, je dis, ben, y a pas de problème, moi, j'ai pas de problème avec ça. Vous voyez? Donc, c'est pas quelqu'un d'autre qui va me dire que, monsieur Vomitant, le tiers-toi. C'est uniquement que mon parti et le FLNKS. Voilà.
Et alors, à la place de l'État, si vous voulez pas l'État comme négociateur?
L'État quand même, ça vous pose pas de problème, Elisabeth, que l'État qui est juge et parti, mène ces discussions-là, entre deux blocs quand même qui se confrontent, qui s'opposent quand même.
Mais l'État est impartial, vous le savez bien.
Ouais, c'est ça.
Alors, quelle solution vous préconisez? Parce qu'on a toujours dit que 88, 98, c'est des discussions à trois quand même, hein.
On n'était pas dans le même. Il n'y avait pas, Monsieur Lafleur n'était pas ministre de l'Outre-mer à ce moment-là. C'était, du Pacifique. Hein, c'était Gaston Flosse. Voilà.
Mais alors,
c'est différent, là.
Qui vous verriez pour remplacer l'État?
Il y a des personnes qui sont spécialisées dans ce genre de discussions, hein, de médiation. Parce que, en fait, ce serait une médiation. Et notamment les Nations Unies, mais pas peut-être spécialement les Nations Unies, mais auprès de ces agences spécialisées, parce que les Nations Unies, c'est leur travail, ça, finalement, de faire ça. Voilà. C'est-à-dire qu'ils font ça, ils font ça tout le temps, ça. Donc, ils dépêchent des personnes, ou des groupes, une ou deux personnes, de par le monde, quand il y a des conflits, quand il y a des discussions importantes à mener, mais des discussions de fond, voilà, à mener, dans un pays, et puis pour préserver la paix, et puis pour faire en sorte que les gens, à un moment donné, se sentent bien, et puis projettent ensemble, c'est leur travail, finalement. Voilà. Parce que nous aurons toujours une méfiance si c'est un ministre français. Parce que nous allons toujours nous méfier de lui, du fait qu'il est juge et parti. Voilà.
Bien. Je voulais également avoir votre avis rapidement, le temps passe, sur les vœux qui ont été déposés pour souhaiter des discussions entre partenaires locaux. Le premier, ça a été l'Assemblée des Princes des Îles qui a adopté ce vœu à l'initiative de Jacques Lallier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a quand même au sein du FLNKS qui souhaitent avoir des discussions également localement et pas seulement bilatérales.
Mais ici, en Nouvelle-Calédonie, on ne vit pas enfermé dans nos... enfermé dans nos maisons. On est tout le temps ensemble.
Faut vous parler en permanence?
Ah ben, c'est évident qu'on se parle. On s'engueule, bien sûr, et puis on se parle. Donc, on se parle. Et sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, évidemment qu'on se parle. Voilà, à l'occasion des travaux dans les commissions, là par exemple, la semaine prochaine, on aura toute la semaine commission, séance publique, pas l'autre semaine après, mais l'autre semaine après, ça va être Paris, séance publique, commission, etc. Donc les gens se parlent, trouvent des compromis, cherchent des compromis, discutent, ensuite votent ou votent pas ensemble les textes qui vont être présentés ou qui sont présentés au Congrès. Donc à l'occasion de ces discussions-là, évidemment que nos discussions d'avenir, c'est pas interdit de discuter. Donc on discute. Voilà, pour le moment, on discute.
Voilà. Vous allez inscrire à l'ordre du jour du congrès également le vœu qui a été déposé par Virginie Rufnacht comme chef du groupe Avenir en Confiance.
J'ai bien reçu ce vœu-là. C'est quand il a été déposé lorsque nous étions encore en Fidji là pour le forum des îles du Pacifique. Mais le bureau va examiner la possibilité de de présenter ce vœu ou pas. Enfin, de comment dire, l'inscrire à un ordre du jour ou pas. Voilà.
Vous étiez au Fidji, après vous étiez au Vanuatu. Vous savez qu'on vous reproche souvent de beaucoup voyager, voire de trop voyager. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Mais vous savez que le congrès maintenant est très sollicité du fait que nous avons développé une diplomatie parlementaire. Et nous sommes dans l'APF, c'était Thierry Santa qui avait fait rentrer le Canada dans l'Assemblée des parlements francophones, donc c'était au Canada, voilà, en 2018. Ensuite, nous avons eu des réunions en Afrique, pas deux fois, en 2019 en Côte d'Ivoire et cette année au Rwanda, voilà. Avec les îles du Pacifique, nous avons, c'est pas moi qui a mis en place avec le Vanuatu, donc les conventions de partenariat, c'est Simon Lecote. Oui, c'est sur mon écoute déjà en 2001 ou 2000. Ça a été poursuivi aussi au niveau du gouvernement par Pierre Frogier, donc les relations avec le Vanuatu. Donc voilà, on est très sollicité, mais du fait comment on est, il y a toujours, surtout pour l'APF, il y a des réunions qui se passent dans le monde. À chaque fois, on est invité, c'est presque 2-3 fois par mois, mais on ne peut pas suivre le rythme. Parce que c'est à cause du budget. Alors on essaie de réduire la voilure au maximum, mais pour y être présent dans des réunions qui intéressent, qui peuvent nous intéresser, comme évidemment l'Assemblée générale. Et c'est pour cela que donc j'ai pu aller au Rwanda, à Kigali, donc il y a trois semaines de ça pour l'Assemblée générale. Ça permet de créer des réseaux, des réseaux où à terme pourrait améliorer l'organisation, le fonctionnement du congrès de la Nouvelle-Calédonie, ou des échanges entre les uns et les autres. Le congrès est très impliqué dans l'APF et nous avons souvent des réunions. Bon, les réunions se font essentiellement par visioconférence et la nuit. Et ça, je remercie quand même nos élus, c'est surtout les dames d'ailleurs, les élus du congrès. Ces dames-là se réveillent des fois à 2h, 3h du matin et ils sont en visioconférence pendant 2, 3 heures et plus. Hein. Donc c'est pour dire l'attachement quand même à ces partenariats et à cette diplomatie parlementaire, parce que la diplomatie parlementaire est importante maintenant dans le monde, voilà, dans le monde elle est très très importante, mais quand on ne sait pas, on le fait pas, mais à partir du moment où on commence à voir que c'est important pour nous, on le fait, et c'est comme ça que pour le Pacifique, depuis Simon Lecote. Donc c'est ces conventions avec le Vanuatu, d'où les 8 millions que j'ai été signé là. Donc
pour le système de sonorisation, oui, du Parlement vanuatais, oui, ça vous le savez, beaucoup de Calédoniens vous le reprochent là depuis quelques jours.
Mais je sais pas pourquoi qu'ils me reprochent. Il faudrait qu'ils regardent un peu comment que tous les parlementaires du monde, tous les parlements du monde.
Parce qu'on est dans des moments de rigueur budgétaire, de problèmes économiques en Nouvelle-Calédonie et que. Mais ils ont peut-être envie que l'argent soit gardé pour les Calédoniens plutôt que.
Mais est-ce qu'ils savent c'est quoi la charité et la solidarité des peuples? Il faudrait qu'ils s'intéressent un peu plus à ça quand même. Donc moi je suis solidaire et puis j'assume les 8 millions, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils ont besoin, donc je fais un jour, nous on aura besoin d'eux, et ils vont nous aider. Donc le forum nous aide aussi, voilà, donc on est en train de s'entraider. On peut pas vivre tout seul dans notre petit coin là, hein, parce que la vie n'est pas comme ça. Hein. La vie n'est pas comme ça, il faut être en relation avec tout le monde, comme dans le monde. Et des fois, ça coûte cher. Mais quand ça coûte cher, quand on n'a plus d'argent, on ne le fait pas. Et si on a un petit peu d'argent, on fait un petit peu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, mais on le fait un peu. Voilà.
Rocco Huitant, président du Congrès, merci d'accepter notre invitation ce midi dans ce magazine Transparence.
Merci Elisabeth de m'avoir invité.